Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre, l'émission de vulgarisation historique qui, en l'espace d'une saison, aura convaincu tous les sceptiques qui nous disaient « Oh, une émission d'histoire à la fois rigoureuse et rieuse, c'est impossible. Certains jours, par vos thèmes, vous allez forcément aller à la facilité. Comment ? Nous, aller à la facilité, c'est mal nous connaître. Car avec mon complice Stéphane Bern, chaque jour, nous vous proposons des thèmes éminemment sérieux aujourd'hui. Ils ont la patate.
Hey, lâche pas la patate.
Bonjour Stéphane, vous pouvez nous en dire un peu plus sur le thème parce que là même moi je doute là.
Bonjour Mathieu, mais bonjour à tous, mais non, il ne faut pas douter. C'est un thème passionnant.
Vraiment.
Aujourd'hui on part à la rencontre des pionniers de la patate, des rois de la pomme de terre, avec des personnages qui ont tellement la patate qu'ils ont fait beaucoup de choses, vous allez voir. On va commencer avec Antoine Augustin Parmentier, celui qui a laissé son nom au hachis bien des années après. Si l'histoire l'a désigné à tort père et inventeur de la pomme de terre, il est surtout celui qui, à la fin du XVIIIe siècle, a tenté de la faire connaître et apprécier. Et vous allez voir que c'était loin d'être gagné, mais c'est ce qui a empêché la famine.
Mais
aussi.
Oui, mais oui, on lui doit une fière chandelle.
On lui doit une fière chandelle. Puis, je vous raconte le sacré manège de Monsieur Fritz. C'est le nom que s'est choisi Frédéric Krieger, un forain fort en communication qui a mis la frite en cornet et l'a popularisé comme jamais dans les années 1800.
On va se régaler.
Mais oui.
Vous allez le faire souvent, l'accent belge, dans l'émission ?
Écoutez, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça me met en joie, cette patate. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai de trois contemporains qui ont eu... plus que la patate.
Oui, Stéphane, eux, ils ont eu...
Sans patate.
Extrait de leur film culte Les Trois Frères, qui d'ailleurs leur a rapporté beaucoup plus que sans patate. Je reviendrai sur la success story des Inconnus. Eux aussi, Stéphane, ils sont trois et leur succès est phénoménal.
Ah oui, ils sont trois. Ce sont nos chroniqueurs, nos deux frères et notre sœur. Elles nous entraînent dans l'intimité des grandes ce monde. Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Vous vous souvenez, messieurs, je vous avais raconté il y a quelques mois l'histoire des faux cahiers intimes d'Hitler.
Oui.
Et comme vous aviez émis quelques remarques sur la santé d'Hitler, eh bien, vos désirs sont des ordres. Je suis allée regarder ça de plus près. Alors lui, il n'avait vraiment pas la patate du tout.
Il était dans un état délabrement. Vous avez consulté son dossier médical.
Mais oui, c'était non seulement un grand psychopathe, mais il était très, 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 très gravement atteint de toutes sortes de choses.
Ça peut expliquer peut-être aussi...
Oui, ça n'excuse peut-être. Pas, mais ah ça non, peut expliquer
non,
certaines choses.
Oui, ça n'excuse pas.
Ça n'excuse rien. Et puis avec nous, David Castello-Lopez.
De Hitler, on passe à Monsieur Patate.
Oui,
c'est deux personnages de l'histoire.
Super, Monsieur Patate.
Voilà un objet qui est dans le thème de l'émission. Monsieur Patate, j'en ai amené un.
Vous allez
voir Monsieur Patate.
Vous allez vous demander. Vous avez fait les choses bien.
Tout à fait.
Et alors, comment accommoder les pommes de terre, évidemment, en cuisine? Et ça, il suffit de demander à Olivier Pouls.
Oui, alors, autant vous dire que cette émission, je vais bien l'écouter.
Pourquoi ?
Parce que les sujets me passionnent, bien évidemment. Alors, Parmentier surtout. Fritz, l'histoire de la frite. Mais moi, je vous parlerai d'une autre manière d'accommoder la pomme de terre. Une manière qui va parler à Stéphane, évidemment, la pomme dauphine.
La dauphine.
Pourquoi ça vous parle particulièrement ?
La dauphine est l'épouse du dauphin. Le dauphin est le fils du roi.
Ben oui. D'accord. Je vois pourquoi ça vous plaît.
Parce que vous pensiez que c'était à cause de la porte dauphine.
Oui.
De la...
vous savez quoi ? C'est bien possible.
J'ai
pu penser ça.
Après,
la dauphine. Et c'est vrai que l'associez beaucoup
dauphine,
à ça.
La porte dauphine, la pomme dauphine. C'est drôle.
Écoutez, vous m'humiliez en début d'émission, ensuite je me rattrape.
Oui.
Les amis, c'est le moment qu'il attend avec le plus de gourmandise dans cette émission.
Des frites.
Le quiz, Stéphane. Le quiz Bern to be alive, ce sera comme d'habitude aux alentours de 5h-10 et ce sera ma petite vengeance. Mais tout de suite, ouvrons-nous l'appétit. Stéphane nous raconte notre premier personnage du jour qui avait la patate, le pharmacien et agronome Antoine Augustin Parmentier.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Charlotte, Belle de Fontenay, Amandine, Rat, Pompadour, Roosevelt, Chéri. Ces jolis noms vous disent quelque chose ?
Ouais. Votre préféré, c'est Amandine, non ?
Oui,
c'est ça ?
Oui. La reine de la princesse
la
des pommes de terre.
Reine des
mais oui, il désigne des variétés de pommes de terre que l'on retrouve aujourd'hui cuisinées sur les plus belles tables gastronomiques du monde. Depuis le néolithique, elle en a parcouru du chemin, la patate. Oui, car contrairement à une idée reçue, ou plutôt une image d'Épinal véhiculée par la Troisième République, notre héros du jour n'est pas l'inventeur ni le découvreur de la pomme de terre. Bien avant Parmentier, il y a plus de 8000 ans déjà, les Incas la cultivaient dans les Andes sur les rives du lac Titicaca. Son goût reste inconnu des Européens jusqu'à la découverte du Nouveau Monde au XVIe siècle. Les conquistadors espagnols rapportent alors cet objet de curiosité dans les cales de leurs navires. Ce n'est pas comme denrée, mais comme médicament pour soigner eczéma et autres brûlures que la patate est utilisée. Le roi Philippe II d'Espagne envoie même la papa, c'est son nom en quechua, la langue des Incas, au pape Pie IV pour l'aider à combattre la malaria. L'expérience fait chou blanc, j'aime autant vous le dire. On préfère alors utiliser la pomme de terre en plante décorative pour ses fleurs roses, blanches et violettes. Elle se retrouve ensuite accusée de répandre la peste et la lèpre. Comme elle pousse sous le sol, elle est considérée par l'Église surtout comme inférieure, voire le légume infernal. Alors, cette saleté, on va la donner à manger aux cochons. Jusqu'à ce que certains en vantent les mérites, comme Antoine Augustin Parmentier. Il naît en août 1737 à Montdidier, en Picardie, dans une modeste famille de 5 enfants. Sa mère, aidée par l'abbé d'Augie, lui apprend à lire et à compter, ainsi que les rudiments du latin, essentiels dans le métier de pharmacien que veut exercer Antoine Augustin. À 13 ans, il travaille comme commis à la pharmacie Frison, avant de partir pour Paris à 18 ans, où il rejoint l'apothicairie de M. Simonet. Parmentier n'a pas assez d'argent pour ouvrir sa propre officine. Il décide donc de s'enrôler dans l'armée qui manque d'apothicaires. Alors qu'il n'a pas encore 20 ans, le voilà en train de sauver des blessés sur les champs de bataille de la guerre de 7 ans que disputent les grandes puissances européennes. Dans la région de Hanovre, les Prussiens le font prisonnier. Parmentier croupit dans un cachot pendant 2 semaines. C'est sans surprise qu'arrive son geôlier à l'heure des repas, matin, midi et soir. Il a droit à une sempiternelle bouillie de pommes de terre. Parmentier découvre alors la valeur nutritive du tubercule. Il écrira « Elles ont été ma seule ressource pendant plus de 15 jours et je n'en fus ni fatigué ni indisposé. » À la fin de la guerre, Parmentier a 26 ans et regagne la France. 3 ans plus tard, il obtient, sur concours, la charge d'apothicaire adjoint de l'Hôtel Royal des Invalides, géré par les Sœurs de la Charité, dont il est soumis à l'autorité. Même s'il ronchonne lorsque des pharmaciens viennent lui demander de l'aide, il finit toujours par se plier en 4 pour les autres, ce qui lui vaut le surnom de « bourru bienfaisant » de la part de son ami cadet de Gassicourt, pharmacien lui aussi. Un tempérament qui colle avec sa devise « persévérer pour réussir ». A-t-il oublié la pomme de terre ? Jamais ! Apothicaire le jour, Parmentier se transforme en agronome la nuit et poursuit ses recherches sur le tubercule. Les famines de 1769 et 1770 sonnent comme un appel à la croisade pour la pomme de terre. L'année suivante, l'Académie des sciences de Besançon lance un concours dans le but de trouver, je cite, « les végétaux qui pourraient suppléer en cas de disette à ceux que l'on emploie communément à la nourriture des hommes et d'indiquer quelle en devrait être la préparation ». Devinez qui remporte le premier prix ?
Parmentier.
Oui, absolument. Dès lors, le tubercule est déclaré sans danger. Parmentier publie en 1773 son examen chimique des pommes de terre et multiplie les articles sur son sujet de prédilection. Ce qu'Antoine Augustin Parmentier souhaite élaborer en priorité, c'est un pain à base de farine de pommes de terre. Il en fait la présentation aux Invalides devant Lavoisier et Benjamin Franklin. Le journal de Paris relate l'événement comme la découverte la plus importante du siècle. Bon, force est de constater qu'elle n'a pas passé l'épreuve du temps. Parmentier publie dans la foulée un traité sur l'art de faire le pain, le parfait boulanger, et ouvre une école de boulangerie dans le quartier des Halles à Paris. Pour promouvoir la patate, il choisit une cible privilégiée et publie un avis aux bonnes ménagères des villes et des campagnes sur la meilleure manière de faire leur pain. La population n'accueille pas encore la pomme de terre à bras ouverts. Reste à prouver que le tubercule se cultive facilement. En 1786, Parmentier en plante sur un terrain stérile mis à sa disposition par le roi Louis XVI dans la plaine des Sablons à Neuilly. Eh bien, ça pousse. Selon la légende, Parmentier met alors en place un stratagème. Faire surveiller la culture par des gardes, mais la journée seulement, pour que la nuit venue, les Parisiens dérobent les tubercules, participant ainsi à leur diffusion. En réalité, ces vols désolent Parmentier. Les pommes de terre ne sont même pas mûres. Quelques mois plus tard, le 24 août, veille de la Saint-Louis, il court à Versailles offrir au roi un bouquet de fleurs de pommes de terre. Louis XVI les accroche fièrement à sa boutonnière et en place dans les cheveux de la reine Marie-Antoinette. Après ça, Vous imaginez bien qu'une patate mania s'empare du royaume. Elles sont partout. Sur la vaisselle, les papiers peints, les robes, mais pas encore dans les assiettes. Parmentier est loin d'être un monomaniaque de la patate et a plus d'une corde à son arc. Il fait partie du groupe des savants qui œuvrent pour le roi au développement de l'agriculture. Aussi s'intéresse-t-il aussi au blé, au maïs, au lait, au sirop de raisin ou encore aux techniques de conservation. Il fait notamment l'apologie des petites bouteilles de Nicolas Appert, l'inventeur de la boîte de conserve. Pour Parmentier, l'hygiène est primordiale. Avec son ami Cadet de Vaux, il analyse les eaux de la Seine, qu'il diagnostique très bonne. Après la Révolution, le Directoire, le Consulat et l'Empire, il est sollicité dans toutes les entreprises humanitaires. En 1790, Parmentier est nommé directeur de la Société Royale d'Agriculture. 5 ans plus tard, la France subit un hiver très rigoureux. Ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent des patates. Une citation apocryphe, hein, bien entendu. Mmh. Mais l'idée est là, Mathieu. On plante des pommes de terre aux Tuileries, tandis que Parmentier se voit décerner une médaille d'or pour avoir propagé et éclairé la culture de la pomme de terre. L'homme politique, François de Neufchâteau, fervent admirateur de Parmentier, demande même à ce que la pomme de terre soit appelée Parmentière. Premier président de la Société de Pharmacie dès sa fondation en 1803, Parmentier continue d'œuvrer ailleurs, à l'instar du médecin Joseph Guillotin, qui n'a pas seulement participer à faire tomber des têtes. En effet, ensemble, les deux hommes mènent des expériences de vaccination contre la variole au début du 19e siècle. Parmentier ne s'est jamais marié, n'a pas eu d'enfant. Il a dédié toute sa vie à son labeur, à son tubercule. Et c'est de la tuberculose qu'il succombe en décembre 1813, à l'âge de 76 ans. Bien qu'elle soit annoncée à la une du journal de Paris, sa mort passe presque inaperçue. La faute à un contexte géopolitique bien tendu. Napoléon vient d'essuyer une défaite à Leipzig et les armées ennemies sont aux portes de Paris. C'est justement au sortir des guerres napoléoniennes qui causent de grandes famines que la pomme de terre devient un élément essentiel de notre alimentation. À en croire Brillat-Savarin en 1825, elle n'a pas pour autant bon goût. Je n'estime la pomme de terre que comme préservatif contre la famine. À cela près, je ne trouve rien de plus éminemment fade. Aujourd'hui, si Parmentier a depuis le début du XXe siècle un hachis en son honneur, il existe surtout des milliers de variétés de pommes de terre et on la trouve sous toutes ses formes, en robe des champs, en purée, en gratin, en soupe, en chips, en frites et même à boire. Et oui Mathieu, vous n'êtes pas sans savoir que la vodka est un alcool de pommes de terre.
Mais pourquoi moi, vous aussi, vous le savez très bien.
Je n'en bois pas. À consommer avec modération pour avoir toujours la patate.
Oui, c'est préférable.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Antoine-Augustin Parmentier, nous sommes avec l'écrivain Pierre-Brice Lebrun. Bonjour Pierre-Brice.
Bonjour.
Bonjour Pierre-Brice Lebrun, vous êtes écrivain gourmand, auteur de nombreux ouvrages sur la gastronomie et vous avez publié « Petit traité de la pomme de terre et de la frite » aux éditions Le Sureau. Un petit traité dont vous précisez dès l'introduction qu'il n'aurait pas plu à Parmentier malgré tout l'amour que vous portez au hachis qui porte son nom. Vous pensez que vous vous seriez frité et que vous ne seriez pas tombé d'accord sur l'amour qui vous relie à ce tubercule.
Mais en fait, je suis même pas sûr qu'il aimait tant que ça la pomme de terre. Lui, il a vraiment voulu toute sa vie faire du pain de pomme de terre, mais jamais on a de traces qu'il en a mangé. Non, il a même, vous parliez du magnifique repas qu'il a organisé pour promouvoir son école de boulangerie en 1778. Il a servi 20 plats. Dans les 20 plats, il n'y a pas une patate. C'était pour goûter le pain de la pomme de terre.
Là où il a été très malin, c'est son histoire de champ de patates qu'il a fait garder pour promouvoir la pomme de terre et d'offrir des fleurs de pomme de terre et des pommes de terre au roi Louis XVI en lui expliquant que ça allait résoudre des problèmes de famine et de disette en France.
Oui, sauf que c'est une légende parce que la plaine des Sablons, c'était une plaine d'entraînement militaire et on a plusieurs lettres de Parmentier qui écrit au commandant en disant « Faites garder mes patates la nuit parce qu'on vient me les voler. » Ah oui. Il n'avait pas du tout envie que le peuple vienne lui voler ses pommes de terre. Et les fleurs de pommes de terre offertes au roi, il y a 3-4 gravures qui racontent la scène, il n'y a aucun témoin. Chacune des gravures fait se dérouler la scène ailleurs. Donc on n'est même pas sûr que c'est vrai, on pense que c'est un peu apocryphe comme souvenir, c'est-à-dire légèrement inventé.
C'est-à-dire que c'est Parmentier lui-même qui a fait croire ça pour promouvoir aussi sa pomme de terre.
Alors je ne crois pas, je crois que c'est arrivé beaucoup plus tard. On ne parle pas tellement de Parmentier avant l'arrivée des hussards noirs de la République, donc l'enseignement gratuit obligatoire. Il faut trouver des saints laïcs. Mmh. On crée des légendes simplistes, un peu fédératrices avec Charlemagne qui invente l'école, Clovis et le vase de Soissons,
mais,
et puis Parmentier.
Mais soyons honnêtes, Pierre-Brice, c'est que la pomme de terre était le légume du diable pour l'Église, parce que elle poussait sous la terre.
En fait, c'est surtout parce que l'Église ne percevait pas la dîme, c'est-à-dire percevait pas d'impôts. C'est pour ça qu'elle a diabolisé la pomme de terre. Ah. Mais on a des traces de consommation de pommes de terre en Franche-Comté en 1620. On a des traces dans le nord de la France. On a des traces en Bretagne. On a des traces en Normandie. On la mangeait partout, la pomme de terre. Il y avait des champs de pommes de terre à 50 km de Montdidier, dans la Somme.
Ah oui, c'est fou. Non, mais en fait, vous êtes en train de détruire toutes les légendes
autour de Parmentier.
Que Parmentier a savamment construite.
J'adore les belles histoires, mais non, en fait. Ça, c'est pour ça que j'ai été m'excuser sur la tombe de Parmentier en disant je suis vraiment navré pour vous. Mais...
Oui, vous pouvez.
Alors, l'histoire retient le nom de Parmentier, mais parmi les ambassadeurs de la pomme de terre, si on peut les appeler ainsi, vous citez, vous, le Belge Lancelot de Castaux et le Français Olivier de Serres. On les connaît moins, ceux-là. Ils ont fait quoi?
Alors, Olivier de Serres, il a décrit précisément la pomme de terre qu'il cultivait en Ardèche en 1600, dans son traité d'agriculture et ménage des champs. Et donc, il est allé la chercher en Dauphiné. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on remarque que la pomme de terre s'est implantée dans toutes les terres qui étaient protestantes. Pour lutter justement contre cette idée de l'Église qui n'en voulait pas parce que c'était, parce qu'elle n'était pas bonne, elle était pour les cochons, etc. Et donc, Olivier de Serres, il est un des premiers à l'avoir cultivée. Et puis aussi les frères Beauhin à Montbéliard. Jean et Gaspard Beauhin sont les premiers à avoir classé correctement la pomme de terre dans les différentes variétés. Et on sait qu'eux en faisaient manger et en cultivaient dans leur jardin et qu'ils faisaient des échanges avec François de l'Écluse, avec plein de gens comme ça. Donc la pomme de terre circulait beaucoup entre botanistes et ils racontent eux-mêmes qu'ils la consommaient.
Mais en fait, c'est Parmentier qui se l'est approprié.
Oui, finalement.
Et donc son nom reste associé à la pomme de terre. Sa grande obsession, vous l'avez dit, Pierre-Brice, c'était de faire du pain avec de la fécule de pomme de terre. Mais son école de boulangerie idéale a été un vrai four. Pourtant, aujourd'hui, ça marcherait parce que gluten-free, très tendance.
C'est l'heure de relancer le pain de pomme de terre.
C'est-à-dire qu'en fait, le procédé qu'il avait trouvé pour retirer l'amidon de la pomme de terre, puisque c'était ça l'enjeu, le procédé prenait 6 jours. Donc c'est très compliqué de faire du pain avec un procédé de 6 jours. Et donc c'est pour ça que c'était un four très joli, ouais.
Et est-ce que il y a beaucoup visiblement de fausses vérités qui circulent sur Parmentier. Le fait que lui a promu la pomme de terre en mettant en avant ses propriétés nutritives, ça c'est vrai. Il a été pionnier de ce côté-là, quand même.
Oui, ça c'est vrai. Il a vraiment travaillé comme un chimiste, beaucoup plus que comme un cuisinier. Son truc, c'était vraiment d'extraire l'amidon des plantes, et il s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'amidon dans la pomme de terre, mais on aurait pu l'associer au sucre, par exemple. C'est lui qui a trouvé la technique de faire du sucre avec de la betterave, quand on n'a plus pu s'approvisionner en canne à sucre.
Ah oui. D'ailleurs, je vous invite, je ne sais pas si...
Vous êtes déjà... où, Stéphane?
Non, aux Invalides.
C'est
on
vrai
peut
vous
voir...
avez les clés?
Oui, enfin, il suffit de demander l'autorisation. Mais moi, je me souviens avoir vu le laboratoire de Parmentier aux Invalides. On voit encore tout ce qu'il a utilisé.
Visite.
Ah oui, ça se visite. Enfin, ça se visitait, j'allais dire, de mon temps.
De quel temps parlez-vous? On ne sait pas, Stéphane. Vous avez traversé les époques.
En tout cas, il a su médiatiser le tubercule. Il a utilisé des méthodes modernes de marketing, en fait.
Oui, c'est ça. Il a utilisé les mêmes méthodes qu'aujourd'hui. Il a construit des réseaux. Vous parliez tout à l'heure d'Antoine Alexis Cadet de Vaux, il possédait le journal le plus diffusé à l'époque, le journal de Paris. Donc du coup, ça aide pour se faire connaître. Et puis, il choisissait bien ses amis, il les invitait à manger. Le repas dont vous avez parlé, là, en 1778, il y avait Benjamin Franklin quand même, il y avait Lavoisier, il y avait le lieutenant général de police. Donc il a joué comme ça avec des réseaux, des connaissances qui lui ont permis d'être toujours extrêmement important et extrêmement bien vu par tous les régimes.
Alors, d'après ce que j'ai compris du récit de Stéphane, il a fallu quand même attendre longtemps avant que la pomme de terre devienne fasse partie du régime alimentaire des Français. Alors, combien de temps il a fallu attendre pour qu'on la trouve dans nos assiettes pour de bon, de manière généralisée?
On l'a trouvée avant, et puis elle s'est généralisée très probablement par les marins, donc qui revenaient d'Amérique du Sud, et qui diffusaient la pomme de terre comme ils ont diffusé plein d'autres choses, les marins et les soldats. En fait, quasiment toutes les nouveautés gastronomiques ou culinaires ont été diffusées par les armées. C'est l'armée de François Ier qui a diffusé les pâtes, les poilus de 14-18, le camembert, et donc beaucoup de produits ont été diffusés comme ça, soit par les armées qui marchent, soit par celles qui battent en retraite, qui s'en vont, etc. Donc c'est arrivé, je pense aussi qu'il y a le bon sens paysan, c'est-à-dire que je vois pas pourquoi des paysans auraient cultivé les pommes de terre juste pour les regarder, ou pour offrir des fleurs à leur amoureuse. Donc vraisemblablement, s'ils les cultivaient, c'était pour les manger. C'est comme ça qu'est né le hachis, qui est assez logique, il reste de la viande.
Et il est né comment? Alors le hachis Parmentier est né comment?
Aucune idée. On a cherché partout, rien, on sait absolument rien. Non, on sait pas. On sait pas, mais c'est sûrement une invention collective, c'est-à-dire j'ai de la viande, j'ai les pommes de terre, documentaire, je les mélange. Et puis au bout d'un moment, on arrive à quelque chose que quelqu'un va populariser. On ne sait pas du tout comment c'est né.
Mais en tout cas, c'est très bon.
Ah oui, c'est très très
c'est
bon.
C'est très bon aussi avec du canard. Vous avez déjà essayé?
Oh, bien oui, sûr. Oui, vous connaissez la recette de Robuchon, c'est ça? Vous faites référence à ça, Stéphane. Je vous connais. Bon.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Pierre-Brice Lebrun, d'avoir réduit en purée le mythe de la pomme de terre de Parmentier.
Oh, bien joué, Stéphane.
Je rappelle donc, c'est-à-dire votre petit traité de la pomme de terre et de la frite, paru aux éditions Le Sureau.
Merci beaucoup.
Merci.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter, elle. Oh, elle nous raconte des histoires qui parfois nous font grincer des dents. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, l'exercice est compliqué parce que vous nous parlez d'un personnage que nous détestons tous, qui est Adolf Hitler. Il avait les dents qui grincent aussi, mais pas uniquement. Il avait un dossier médical assez lourd.
Oui, en fait, ce qui m'a donné l'idée, d'abord, c'est une promesse que j'avais faite. Vous vous souvenez que j'avais déjà évoqué la crypto-orchidie des dictateurs Franco et Hitler. Et puis, c'est aussi la réédition de Mein Kampf. Et du coup, je me suis plongée dans le chapitre que François Kersaudy consacre à la santé d'Hitler dans les secrets du Troisième Reich. Et savez-vous qu'on y apprend que déjà, dans sa propre fratrie, Hitler était un survivant. Avant lui, trois autres enfants sont morts et son frère cadet mourra, lui, à l'âge de 6 ans. Vous vous rendez compte de ce coup du destin? Il y a donc 5 enfants, il y en a un seul qui survit et c'est celui-là. Et c'est à partir de 1929 qu'il commence à souffrir de ce qui va le suivre absolument toute sa vie de façon chronique, c'est-à-dire des violentes douleurs abdominales pour lesquels il se met, tenez-vous bien, à consommer du néoblastol.
Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est quoi le néoblastol?
Eh ben, figurez-vous que c'est un médicament qui sert à graisser les culasses de fusil. Je me demande d'ailleurs si on ne pourrait pas faire cuire des frites dans du néoblastol. Si ça se trouve, on peut, c'est de la graisse. Mais le problème, c'est que ça a d'énormes effets secondaires, des migraines, des acouphènes, des vertiges.
C'est pas un médicament.
C'est un produit. Et lui,
il le prenait comme médicament. Le problème, c'est que si Hitler a des problèmes gastriques, c'est parce qu'il mange n'importe quoi, à n'importe quelle heure. Il mange à toute allure, quasiment couché sur son assiette. Et comme il a des dents dans un état lamentable, il avale plus qu'il ne mâche. Et dans le bouquin de Kersaudy, il y a un passage d'anthologie où Kersaudy résume les phobies d'Hitler. Il est hypochondriaque, insomniaque, paranoïaque et hautement phobique. Il a peur des ascenseurs, de la nuit, de la solitude, de l'immobilité, de la trahison, bien sûr, du tabac, de l'alcool, de l'altitude, de la chaleur, des attentats, du sport, des microbes, de l'anesthésie, de la constipation, de l'obésité, des journalistes, du soleil, de la baignade, des chevaux, de la navigation et bien sûr de l'empoisonnement. Il est aussi obsédé à l'idée de mourir d'un cancer comme sa mère, il menace régulièrement de se suicider. Alors voyez, cet homme-là, après 33, c'est-à-dire il vient d'arriver au pouvoir, il a toute la journée, il souffre de gastrite, d'œdème, il a de l'eczéma aux jambes, il a des acouphènes, et il se soigne tout seul, n'importe comment. Et puis comme il devient complètement végétarien, déjà il avait des problèmes gastriques, il a de redoutables flatulences. Et pour ça, il consomme des pilules qui contiennent de la strychnine et de l'atropine. C'est-à-dire, comment cet homme-là a-t-il survécu à tout ça? Alors, en 1936, c'est un dermatologue qui est plus ou moins un charlatan qui va changer la donne. Il s'appelle Théodore Morel. Alors, Théodore Morel prescrit, alors là, ça va y aller, du mutaflore pour reconstituer sa flore intestinale, couplé avec des injections de vitamines, d'hormones, de dextrose, d'extrait de foie de bœuf et de testicules de taureau. Bon, alors on le pique à ça régulièrement. Là, les spasmes se calment, les œdèmes aux jambes disparaissent, donc Hitler est persuadé qu'il a trouvé l'homme de la situation et il prend ce charlatan, Théodore Morel, comme médecin personnel. Mais un an plus tard, ça repart de plus belle. Alors on lui donne des stimulants à longueur de journée. Il en réclame sans cesse pour tenir le coup. Il lui faut des stimulants pour se réveiller, il lui faut des sédatifs pour le faire dormir. Et comme il se couche rarement avant 5 heures du matin, qu'il mène une vie très malsaine, il est rivé à ses cartes, il ne fait aucun exercice physique. Fin 42, sa main commence à trembler. À 53 ans, c'est un vieil homme fatigué et puis un patient très difficile qui refuse les examens cliniques et les radios. Et dans son journal, le docteur Morel écrit « Injection wie immer », ce qui signifie « injection comme toujours ». Au total, dans les notes de Morel, on comptera pas moins de 800 injections sur la période 41-45 de tous ces produits. produit. Donc anémie, épuisement, artériosclérose, spasme, insomnie. Voilà, pour tous ces mots, le seul remède, ce serait le repos complet, évidemment, qu'Hitler ne peut se permettre. Mmh. Et en 44, quand il arrive à Berchtesgaden, Eva Braun est effarée. Il marche voûté, il a des cernes épouvantables, ses cheveux grisonnent, il a des saignements dans l'œil droit, ce qui fait qu'il a un voile devant cet œil. Il a besoin d'une loupe, il a une démarche traînante. Et alors là, il y a une grande discussion entre médecins, parce que pour les uns, ce sont les signes de la maladie de Parkinson, et pour les autres, ce sont les symptômes du stade tertiaire de la syphilis. Et Hitler évoque la syphilis dans Mein Kampf, il le qualifie de maladie juive. Alors certains commentateurs expliquent que il avait attrapé la syphilis et que c'était une des raisons de son antisémitisme. Il considérait que c'était la maladie juive et que naturellement c'est à cause des juifs qu'il avait la syphilis. Cet homme-là, je disais déjà que c'était un survivant à la naissance, mais il y a aussi, vous savez, cet attentat du 20 juillet 44, il a eu une chance insolente. Enfin, il a les deux tympans crevés et une centaine d'éclats de bois dans les jambes, mais il y a eu 3 morts, 20 blessés. Lui, il survit. Et on continue à lui injecter des produits dont le médecin refuse d'indiquer la nature, la composition aux autres médecins, bien sûr. Alors là, après cet attentat, Göring constate que Hitler perd l'équilibre, que ses mains tremblent, ses pieds aussi. Il n'arrive plus à mettre de l'ordre dans ses idées. La lumière extérieure lui blesse les yeux. Et ses généraux, son entourage, est très embarrassé de le voir absorber une quantité invraisemblable de comprimés. Il attrape la jaunisse, il a les yeux complètement jaunes, il doit se tenir la main pour éviter les tremblements, il a la bave qui lui coule de la bouche. Enfin vraiment, c'est un cadavre en brûlant, cet homme-là. Songez qu'il aura pris jusqu'à 90 médicaments par jour, 90 médicaments par jour, administrés 8 années durant.
Mmh. On a du mal à le plaindre.
On se dit que l'Allemagne aurait dû
en finir avec lui plus tôt.
La vitalité de cet homme quand même, parce que vraiment, donc pendant toutes ces années, l'Allemagne nazie était dirigée par un psychopathe et un très grand malade. Mais les historiens, il y a des historiens allemands qui effectivement supportent très mal qu'on parle de ça en disant, écoutez, faut pas envisager ça comme un facteur explicatif majeur de cette histoire. Ça nous éclaire sur l'état de cet homme, bien sûr, sans expliquer quoi que ce soit. On comprend que cet homme n'allait... Alors là, oui, pour le coup, il n'avait pas du tout la patate. Alors reste une question, la seule question importante dans cette histoire, c'est en effet de vérifier auprès d'Olivier Poul si on pouvait faire cuire des patates dans le néoblastol.
Ça, on lui demanderait.
Merci beaucoup, Clémentine. J'en profite pour dire que chez Fayard, ce n'est pas Mein Kampf qu'on réédite, c'est
une édition commentée.
Édition critique qui s'appelle Historiser le mal, avec une explication, les historiens qui expliquent évidemment sa démarche, qui remettent dans le contexte. Ouais. Et évidemment, tous les droits iront à la fondation Auschwitz-Birkenau, chargée de la conservation du site du camp de concentration et d'extermination.
C'est important de le préciser, effectivement. Merci Stéphane. Eh bien écoutez, dans cette rubrique, on a entendu parler de syphilis, des flatulences d'Hitler. On aurait cru déjà le quiz, et non, pourtant le quuiz arrive maintenant. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Elle croyait collaborer avec un des plus éminents historiens français, un esprit vif et brillant. Quelle ne fut donc pas la surprise de Clémentine en découvrant à travers l'épreuve du quiz la vraie nature du cerveau de Stéphane Bern.
Complètement informe et tout mou.
Jouons à Bern to be alive.
Je précise que Stéphane, contrairement à vous, moi je n'ai jamais prétendu être historien. Voilà.
Contrairement à moi, oui. Vous m'avez souvent entendu dire que j'étais historien.
Maintenant vous le dites dans les dîners.
Oui c'est vrai, oh vous m'avez trahi. C'est vrai que je m'en vante beaucoup. Question numéro 1 pour vous Stéphane. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais certaines expressions parfois insignifiantes remontent à des temps très reculés. Ainsi, quand je dis « toucher du doigt » pour dire que je vérifie quelque chose, eh bien c'est biblique, vrai ou faux ?
Il y a cette image magnifique dans la chapelle Sixtine.
C'est ça, le doigt de, et puis le doigt de Dieu était sur... Ça me plairait bien. Pour vous dire la vérité, je n'en sais fichtrement rien.
Mais vous voyez le doigt dans la chapelle Sixtine et vous dites c'est biblique.
Et je me dis c'est biblique.
Vous avez...
Vous avez gagné, mais ça n'a rien à voir avec le plafond de la chapelle Sixtine. Saint Thomas, dans l'évangile de Saint Jean, ne croyait pas à la résurrection de Jésus. Il va dire « Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, je ne croirai pas ». 8 jours plus tard, Jésus s'adresse à Thomas et dit « Avance ton doigt, cesse d'être incrédule, sois croyant ». Il a mis son doigt et il a cru. Mettre son doigt et croire, une démarche qui a suscité par la suite beaucoup de vocations. Question numéro 2.
Surtout Saint Thomas, c'est je crois ce que je vois.
Voilà. tout se tient. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Aujourd'hui, quand on parle de laïcité, un qualificatif revient souvent, islamo-gauchisme. Par le passé, on parlait aussi de judéo-bolchevisme. Il y a une autre insulte qui a été utilisée au début du siècle, notamment par Clémenceau dans un discours, c'est socialo de Bénitier. Vrai ou faux ?
Oh oui, je crois volontiers parce que il était en pleine, il a vécu de plein fouet la polémique de la séparation de l'Église et de l'État et le vote de la loi 1905. Et en plus, en effet, il y avait un certain nombre d'hypocrisies. Hein. Quelqu'un comme Jean Jaurès avait des positions tout à fait laïques et en fait, on voyait ses filles à l'école catholique, la messe, etc. Donc chacun était obligé de prendre parti et les frontières était compliqué entre une appartenance générale au catholicisme à l'époque et puis le nouveau tour que prenait la République laïque. Donc je pense que oui, c'est vrai.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné. C'est un demi-point pour vous car vous avez développé le bon raisonnement. En revanche, l'expression socialo de Bénitier est fausse. Clémenceau a qualifié
socialiste
Jaurès.
Socialiste de Bénitier, non ?
Non, socialo papalin. Les débats lors de la loi de 1905 sur la laïcité furent houleux, vous l'avez dit, Jaurès la qualifie de juste et sage. Pour Clémenceau, cette loi trahit la laïcité en livrant la République à l'Église romaine. Jaurès dit qu'il faut assurer une liberté religieuse car, je cite, et c'est très beau, on ne fera pas disparaître la vieille chanson qui berce la misère humaine.
Oui, enfin, vous avez remarqué que j'ai quand même spécifiquement cité Jaurès, dont les filles allaient à l'école catho.
C'est pourquoi vous héritez d'un demi-point, car je suis magnanime. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Restons en 1905, belle année. C'est l'invention du tensiomètre. Une invention qui va offrir une meilleure vie à beaucoup. Et c'est cocasse, car l'inventeur est français et il s'appelle Fernand Bonnevie. Vrai ou faux ?
Comment, Stéphane ? Vous ne connaissez pas l'inventeur du tensiomètre, Fernand Bonnevie ? Celui qui a inventé l'hygromètre, c'est Saussure. Il a pris les cheveux de sa femme pour le faire. Ça, c'était une belle histoire. Voilà, c'était une belle question.
Mais vous avez qu'à écrire le quiz.
Non, j'ai déjà cette boulot comme ça. Merci.
Disons oui.
Vous avez...
Écoutez bien la réponse.
Perdu
net et clair. Voilà. C'est faux. Fernand Bonnevie, c'est le moniteur de ski qui joue le moniteur de ski dans Les Bronzés font du ski. Il était vraiment moniteur de ski. Et il a eu comme élèves Giscard et Jean Gabin.
Non.
Exactement. On lui donne l'interprétation de la fameuse expression du planté de bâton.
Ce qui ne va pas, c'est le planté de bâton. Le planté de bâton ne va pas.
Le vrai inventeur du tensiomètre n'est pas français mais russe, c'est Nikolai Korotchkov. Question numéro 4 pour vous, Clémentine.
Vous en souviendrez, Stéphane.
Quand on pense aux homosexuels à travers l'histoire, on pense à la civilisation grecque. C'est très réducteur car à Prague, en 2011, on a trouvé les ossements d'un homme enterré il y a plus de 5000 ans et qui était gay. Vrai ou faux ?
Mais quand sait-on ? Ils étaient deux hommes enlacés dans une tombe ?
Attendez, je lis la réponse pour comprendre. Réfléchissez pendant ce temps.
Alors, je réfléchis. Le seul moyen de savoir qu'un homme inhumé il y a 5000 ans, il y a 5000 ans en plus, était homosexuel, c'est éventuellement qu'il ait été mis en terre et qu'on l'ait retrouvé enlacé avec un autre homme. Mais un autre homme, encore fallait-il qu'il soit à peu près son...
Ça a à voir avec la manière dont il a été inhumé, certes.
Alors c'était peut-être inscrit... Non, c'est pas inscrit ou que ce soit, il y a 5000 ans. Qu'est-ce que
non,
c'est
mais ils étaient imbriqués l'un dans l'autre,
Stéphane.
Deux hommes imbriqués l'un dans l'autre et mis en terre au même
comme
endroit.
Les amants de Pompéi.
Oui.
Alors vous répondez oui.
Je réponds oui.
Vous répondez oui.
Vous avez... gagné.
Vous avez gagné, parce que c'est un demi-point. C'était pas très précis comme réponse. Vous avez dit n'importe quoi, les gens étaient imbriqués, enfin des choses un peu choquantes.
C'est ça, c'est Stéphane qui l'a dit, c'est pas moi.
Mais vous avez acquiescé.
C'est vrai.
C'est plus ou moins vrai. On a baptisé cette tombe la tombe du troisième sexe. Pourquoi ? Pourquoi est-ce une anecdote ? Toutes les tombes de cette région avaient des règles strictes. Les hommes étaient enterrés sur le côté droit, la tête vers l'est, couverts d'armes et de provisions alimentaires. Les femmes enterrées sur le côté gauche, la tête vers l'ouest et couvertes de bijoux. Les archéologues tchèques ont trouvé la tombe d'un homme enterré comme une femme. C'est la première trace dans l'humanité d'une personne bousculant le genre. C'était il y a 5000 ans.
Bon, comme... il a bousculé le genre.
Il a bousculé le genre.
Mais il n'était pas nécessairement homosexuel. Ça, c'est vraiment vos conclusions hâtives. Oui.
Ce sont.
Vous êtes transphobique. C'est scandaleux.
Mais pas du tout. Mais comment ça ? Mais
vous
êtes
transphobique. Mais je suis extrêmement gêné.
Mais c'est précisément l'inverse. Mais vous voulez. Mais je quitte le studio. Mais vous n'avez qu'à me remplacer.
Moi, ça me met très mal à l'aise, cette histoire.
Demi-point.
Faut accuser quelqu'un. Vous accusez quelqu'un de transphobique, c'est bon.
eu. De demi-point en demi-point, nous sommes très à égalité. Attention, oui, c'est la question 5. C'est la question qui va vous départager. Et on va encore parler d'homosexualité. On a parlé ici du shudo, homosexualité, oui, qui se pratiquait chez les samouraïs durant, oui, l'époque médiévale entre maître et élève. Aujourd'hui, un nouveau mot, le nushu. Qu'est-ce que c'est ? Trois propositions. Une écriture exclusivement réservée et pratiquée par les femmes. Un bouchon de bronze que l'on insérait dans un endroit très intime. Cela aidait les prêtres taoïstes pendant leurs prières à se concentrer. Une façon de se saluer qui consistait à pincer le lobe de son interlocuteur. On le pratiquait sous la dynastie Tang.
Un, deux.
Alors là, Stéphane vient de dire que le nushu, selon Stéphane, grand sinophile, selon Stéphane, le nushu est un bouchon de bronze que l'on insérerait dans un endroit très intime, donc tout le monde voit de quoi on parle.
C'est un genre de plug anal, en somme.
Exactement, vous avez dit le mot, vous avez, le mot
mais
est lâché.
Mais moi j'ai dit personnellement.
Le mot est lâché. Parlé. Oui, vous avez dit que j'étais sexuel.
Oui, je n'ai pas dit que c'était sexuel, vous demandez ce qu'était le nushu.
Non, vous avez annoncé la question en disant
qu'on sait que chaque fois, maintenant j'ai compris un truc dans votre quiz.
Qu'est-ce que j'ai compris ?
C'est toujours la réponse la plus grivoise, la plus étrange, la plus extraordinaire qui l'emporte.
C'est normalement le bon raisonnement, mais pas aujourd'hui, parce que là, je suis désolé, mais le bouchon de bronze qu'on insère dans un endroit très intime.
Moi, je voudrais faire observer quand même que je partage ce studio avec un transphobique et un pervers. Hein. Je commence à me sentir très très mal.
Et vous remportez ce
mais
combat.
Mais bien sûr, voilà.
Effectivement, le nushu n'est pas un plug anal, Stéphane. Non.
C'est la langue qui est réservée aux femmes.
C'est une écriture exclusivement pratiquée par les femmes au Japon. Elle est née au 15e siècle. La dernière femme qui le maîtrisait est morte en 2004. C'était un dialecte local et une façon d'écrire que seules les femmes connaissaient, car les hommes ne l'ont jamais appris. Il y a très peu d'écriture nushu, car les manuscrits étaient tout de suite brûlés, car interdits, et leurs autrices aussi. Mais rassurez-vous, en 2002, est sorti un dictionnaire nushu pour, si jamais vous voulez, vous y mettre.
Nous sommes sauvés.
Voilà. Et alors, mettez-vous à cette version-là du nushu et pas à celle de Stéphane.
Je vous rappelle que vous nous avez induit en erreur. Parce que vous avez dit, pour la question finale, on va encore parler d'homosexualité.
Bah, c'est vrai, vous êtes
donc
vraiment pervers.
Moi, je me suis dit, foncé vers le plug.
Oui, vous êtes deux pervers pépères, et moi, vraiment, suis très choqué.
Il m'a foncé vers le plug.
Mais Stéphane, vous savez que ma spécialité, c'est d'extraire des sons de cette émission. Vous venez de dire, il a foncé vers le plug. Je peux mettre ça à toutes les sauces, si j'ose dire. Victoire de Clémentine.
(rire) 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et aujourd'hui, Mathieu, on a une de ces patates.
Ça, c'est vos nouvelles pilules, Stéphane. Ou alors, c'est le thème de notre émission.
Hey, lâche pas la patate,
cet après-midi, nos trois personnages aussi avaient la patate.
Oui, après Antoine Parmentier, qui l'a popularisé en France, je vous parle d'un autre nom important dans l'histoire de la pomme de terre, celui qui est un dieu pour les tuches. Frédéric Kriger dit « Monsieur Fritz, l'homme par qui la frite est arrivée. »
Des frites ! Des frites ! Des frites ! Des frites ! Des frites !
Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait, bon, à 99% vrai, d'une célèbre triplette comique qui n'avait pas son pareil pour nous donner la frite, surtout quand il courait après les patates.
L'héritage, il est où ? Les sans patates ?
Les sans patates.
L'héritage.
Il se trouve que l'usufruit de votre quote-part entière indivisé.
C'est ce que je comprends pas. Excusez-moi, je vous permets juste deux secondes parce que je comprends pas l'histoire du jus de fruit.
L'usufruit.
Bah oui, c'est quoi, ça veut dire quoi ?
Clairement.
Oui.
Eh ben, disons qu'il n'y a plus d'héritage.
Oh non, j'aime pas.
Les inconnus ont marqué toute une génération, mais qui était-il avant de le devenir connu ? Je surmontais aux origines du célèbre trio. Mais vous connaissez le showbiz, le temps passe et un trio comique en chasse un autre. Chers auditeurs, voici réunis pour cette deuxième heure David, Olivier et Stéphane.
David Castello-Lopez qui nous raconte les origines de Monsieur Patate.
De Monsieur Patate, le jouet Monsieur Patate.
Olivier Poul, c'est avec nous aussi Stéphane. C'est la recette du jour qui va tourner autour de la patate,
et vous
évidemment.
Savez ce que j'en fais, moi, de votre Monsieur Patate ?
Oh non.
J'en fais des pommes dauphines, monsieur.
Ah, le pauvre. Qui doivent tout à la dauphine. Et peut-être au dauphiné aussi.
Mais oui, moi, c'est ça que je voulais dire. J'ai une erreur tout à l'heure. Je pensais au dauphiné. Vous me dites de la dauphine, là.
Oui, mais la dauphine.
Avis, d'où vient le dauphiné, peut-être ?
Le dauphin de France, ça vient du dauphiné.
D'accord, très bien.
C'était son apanage. à l'héritier.
Et pourquoi le Dauphiné s'appelle le Dauphiné ? Et est-ce qu'il y a un rapport avec le dauphin ?
Oui, absolument. Dans les armoiries, vous avez deux dauphins.
C'est fou, il arrive à injecter de l'histoire même pendant le sommaire. Ça, c'est vraiment la patte, Stéphane.
Alors, Berne. Le mot de la fin.
Le mot de la fin, Stéphane, parce que vous nous expliquez aussi l'histoire des expressions dans cette émission.
Oh, mais allez au diable vos vers, Mathieu.
Oh non.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais c'est où ?
C'est où vos vers ? Est-ce que c'est un lieu ?
C'est vers Dijon,
vous avez Waze.
Oui, alors il y a trois itinéraires sur Waze pour vos vers.
Alors...
un qui est très embouteillé. Vous passez par, on passe par les autoroutes ou
oui,
pas ?
Oui, on va parler moine, diable et esprit. Juste avant 18h pour vous expliquer le diable Vauvert.
Non, on revient plutôt qu'on y va, non ?
Oui, absolument.
Revenir du diable
Vauvert. Revenir du diable Vauvert.
Tout de suite, les amis, entrons dans la polémique. Cassie pour Olivier Poul, ce sont les Belges qui ont inventé la frite. Pour Stéphane Bern, ce sont les Français. Afin de ne fâcher personne et de maintenir une bonne ambiance dans l'équipe, il a choisi de nous parler d'un Bavarois qui, lui, les a popularisés. Frédéric Krieger dit « Monsieur Fritz, c'est son histoire » que Stéphane nous raconte à présent.
Europe 1, 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Pour le chef Kurnonski, les pommes de terre frites sont une des plus spirituelles créations du génie parisien. En affirmant que les French fries sont bien d'origine française, le prince des gastronomes pique au vif nos amis belges qui s'en attribuent la paternité. Il faut dire qu'elle est chez eux l'équivalent de notre Tour Eiffel, un véritable emblème national brandi avec fierté dans des cornets. Le débat sur l'origine de la frite est houleux, pour ne pas dire huileux. Au risque de déplaire à ses compatriotes, l'historien belge Pierre Leclerc tranche bien en faveur d'une origine parisienne. Dans les années 1780, des vendeuses de beignets frits de pommes de terre s'installent sur le Pont Neuf, à Paris. Elles seraient les premières à avoir plongé des tranches de pommes de terre dans une friture. D'abord sous forme de rondelles, puis de bâtonnets, plus pratiques, car ils collent moins les uns aux autres. Bon, mais nous n'en sommes pas là pour remuer le couteau dans la sauce mayo, mais pour découvrir celui qui, s'il ne les avait pas inventés, les a popularisés, Frédéric Krieger et ses célèbres baraques à frites. Jean-Frédéric Krieger naît à Bosenbach, en Bavière, en mars 1817, dans une famille de musiciens forains. Depuis le Moyen-Âge, les foires permettent de se procurer des biens inaccessibles sur place. Mais au XIXe siècle, avec l'amélioration des voies de communication, ces produits se retrouvent en boutique, tandis que les foires se spécialisent dans le divertissement. Les spectacles sont variés. Chanteurs, jongleurs, danseurs, lutteurs, marionnettistes ou encore bêtes de foire. Le public se régale et afflue de plus en plus nombreux. S'il rit de bon cœur, il faut aussi qu'il puisse se remplir la panse. Dans ce contexte florissant, Frédéric Krieger saisit sa chance, quitte le foyer familial et traverse la Belgique pour s'installer en France. Il retire alors définitivement son costume de musicien pour enfiler celui d'apprenti restaurateur dans la rôtisserie chez Pellerin, rue Montmartre à Paris. C'est là qu'il découvre la pomme de terre frite. En janvier 1844, il est à Bruxelles, où il épouse une musicienne et crée la société Fritz, spécialisée dans la confection de pommes de terre frites à l'instar de Paris. Génie du marketing, Frédéric troque son nom pour cet astucieux pseudo, Monsieur Fritz. Celui-ci rappelle son origine germanique, c'est le diminutif allemand de Friedrich Fritz, et la pomme de terre frite, bien entendu. L'année suivante, Krieger retrouve son habit de forain. Après avoir créé la première baraque à frites à la foire de Liège, il sillonne les routes de Flandre et de Wallonie. Le public des foires s'enorgueille grâce à lui de déguster ses croustillantes frites venues de Paris. En bon commerçant, Krieger se débrouille pour faire paraître des publicités dans la presse. En 1848, la première réclame pour M. Fritz est publiée dans le journal de Liège. Les pommes de terre frites sont arrivées à la foire de Liège avec leur infatigable rôtisseur, M. Fritz, propriétaire de l'établissement des tubercules rôtis, prévient ses consommateurs qu'il a redoublé de zèle afin de prévenir toute observation. Il continuera de faire rouler ses omnibus et ses vigilantes à 10 et 5 centimes. On est prié de s'adresser quelque temps à l'avance pour les grosses commandes.
Vous avez hésité avec l'accent belge pendant toute la citation, oui. et nos auditeurs sont un peu frustrés, Stéphane.
Oui,
parce que je pense
le sens bien,
qu'on aurait pu être plus dans l'histoire avec un bon accent belge.
Oui. J'aime bien. On est prié de s'adresser quelque temps à l'avance pour les grosses commandes. Fin publicitaire, Fritz fait preuve d'imagination avec les noms de ses cornets. Le premier, Omnibus, fait référence au tout nouveau moyen de transport urbain. Et le second, vigilante, aux voiturettes avec un passager tiré par un cheval. À coup sûr, le cœur du consommateur doit balancer en faveur de l'omnibus, plus gros et résolument plus moderne. En 1852, son commerce est si florissant qu'il change d'allure. Exit la baraque en toile. Les clients peuvent désormais déguster leurs frites dans des assiettes en faïence, dans un somptueux salon en bois avec plafond décoré. Pour les becs sucrés, la maison propose aussi des gaufres. Pour aider à faire glisser tout cela dans les estomacs, les plus gourmands accompagnent le tout d'une bière pression, d'un verre de vin, de cognac ou encore d'une liqueur. Son établissement, il l'appelle le Sébastopol pour faire référence à l'actualité, la guerre de Crimée qui oppose l'Empire russe à une coalition qui compte la France et le Royaume-Uni en 1853. Aussi peut-on lire dans le courrier de Verviers de 1857 « Le roi des pommes de terre frites poursuivre de près les circonstances, appela son établissement le Sébastopol, vu que les conservateurs le prennent d'assaut tous les jours et qu'il a augmenté ses feux. Par conséquent, le nom des paquets des frites a changé. Les gros sont nommés des Russes et les petits des Cosaques, de sorte que l'on croquera à l'intérieur les Russes à 10 centimes et les Cosaques seront vendus à la porte à 5 centimes, qu'on se le dise. »
Ah voilà, là on y est Stéphane, oui. Là on est transporté dans l'histoire là, forcément.
Le succès est tel que 50 ans plus tard, tout le monde se promènera avec des Russes à la main, persuadé que les frites sont donc originaires de là-bas. Frédéric Krieger est un lanceur de mode. Les baraques à frites sont désormais bien implantées dans les foires. La concurrence s'agite, mais le roi de la frite, c'est bien lui. En 1861, il gagne si bien sa vie qu'il achète 3 maisons à Liège pour 32 000 francs. Si la vie lui sourit dans le milieu professionnel, le forain bavarois connaît des déboires côté famille. Des 8 enfants qu'il a avec son épouse, un seul vivra relativement longtemps. Mais il mourra quand même à 33 ans.
Quelle tristesse.
Monsieur Fritz meurt, lui, de la tuberculose en novembre 1862, à l'âge de 46 ans.
Tous
à
ces
Liège.
Fans de pommes de terre qui meurent de la tuberculose, c'est triste quand même.
Oui, tuberculose, oui, c'est ça, ridicule. Oui. Bien qu'il puisse continuer à manger des frites, les Belges sont très touchés par la disparition de cet immigré qui incarnait le mérite et la réussite. Au lendemain de sa mort, un important cortège funèbre part de la foire de Liège en direction du cimetière de Robermont où Krieger est enterré selon le rite protestant. Frédéric Krieger, c'est l'histoire d'un Bavarois qui s'est formé à Paris pour populariser la frite en Belgique en empruntant le nom des Russes. Il faut se méfier des emprunts russes. En haut, au lieu de se chamailler pour lui trouver un inventeur, il serait alléchant de conclure que la frite est le fruit d'une histoire collective.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Monsieur Fritz, nous sommes avec l'historien de l'alimentation qui connaît l'histoire de la frite sur le bout des doigts, Pierre Leclerc. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Bonjour Pierre Leclerc, vous êtes historien de l'alimentation, vous faites partie du Centre de gastronomie historique de Bruxelles. On vous doit de nombreuses publications et notamment la véritable histoire de la pomme de terre frite. La guéguerre est toujours vive aujourd'hui sur la paternité de la frite. Est-ce, comme je l'ai dit en fin de récit, l'invention de la frite est communautaire ou au risque de vous mettre tout votre pays à dos? Bon, c'est pas grave, en même temps vous parlez sur une radio française.
Vous pouvez tout dire.
Vous maintenez que la frite est bien d'origine française.
Oui, voilà, je vois bien où vous voulez en venir. Hein, mais je vous rappelle tout de même que vous êtes écouté en Belgique. Hein, donc, on va quand même faire un petit peu attention à ce qu'on raconte. Enfin, bon, plus sérieusement, parce que là, on est quand même dans un sujet très sérieux, n'est-ce pas ? Si on considère la question de la naissance de la pomme de terre frite, il faut bien avoir conscience que la frite n'a pas été inventée par une personne quelque part à un moment donné. Elle est le fruit de toute une longue évolution qui a pris 150 ans et qui s'est réalisée sur une ère géographique qui comprend Paris, la Belgique, le Nord, et tout le monde y a mis un peu son grain de sel. Mais au cours de ces 150 ans, il y a tout de même une période charnière, une période où la pomme de terre frite est passée de son état de rondelle rissolée, hein, qui n'est pas vraiment ce qu'on connaît aujourd'hui, à la rondelle de pomme de terre plongée dans un bain de graisse. Et ça, c'est à mon avis la vraie naissance de la pomme de terre frite. Et elle s'est déroulée fin 18e, début 19e siècle, dans les rues de Paris. Donc, on est bien là dans une naissance parisienne de la pomme de terre frite et est arrivé ce qui devait arriver dans les années 1840. La pomme de terre frite arrive en Belgique et la Belgique va développer sa propre culture de la pomme de terre frite qui s'émancipe complètement de sa tutelle parisienne.
Et justement, peut-être on peut un point alimentation. Le bain de graisse n'est pas le même en France et en Belgique, n'est-ce pas ?
Il n'est pas exactement le même. En France, on parle surtout de Saint-Doux. Mais ce qui est très important au-delà de la graisse qu'on utilise, c'est le mode de cuisson, c'est le bain de graisse. On l'a dit, on est passé de la frite rissolée à la frite plongée dans un bain de graisse, et ça, ça donne un produit qui est déjà brûlant à la sortie du bain de graisse, ce qui fait qu'on a des paquets de pommes de terre frites bien chauds. Et quand on est dans une culture de rue, en hiver, avoir un paquet de pommes de terre frites bien chaudes, c'est un avantage. Elles sont croustillantes également. Et il faut bien imaginer que juste que ce moment-là, le croustillant est une sorte de privilège de classe. Le peuple, lui, mange bouilli, c'est mou. Mmh. Et donc là, on a ce croustillant, cette sensation aristocratique de la cuisine qui est à la portée de tout le monde. Et en plus, elles sont grasses et caloriques. Aujourd'hui, hein, ce serait considéré plutôt comme un défaut d'être gras et calorique. Mais au XIXe siècle, où la graisse, où les calories sont plus rares, elles sont plus chères. Et donc, un produit comme la pomme de terre frite, qui est à la fois bon marché, gras et calorique, c'est également un grand avantage. Et ce sont ces trois éléments-là qui font que la pomme de terre frite a eu un succès phénoménal.
Et alors, ce qui est amusant, c'est la façon dont le forain Frédéric Rigard a anobli la frite en Belgique en la servant, Stéphane racontait ça, dans des assiettes en faïence avec des alcools de choix, avec des frites et du cognac. Ça paraît un peu étonnant. Il ciblait qui comme clientèle ?
Alors, Frédéric Rigard ciblait tout le monde. Hein. Il faut savoir que la foire était un des rares divertissements adressés à tout le monde qui passait chaque année dans chaque grande ville. À l'intérieur de son établissement, qui était un salon, on va, comme vous l'avez très bien dit, on va manger les frites dans des assiettes en faïence avec une bière pression ou avec du vin carrément. Après, on mange une gaufre avec du cognac. Donc là, on est dans une consommation chic. Par contre, l'ouvrier, le gamin qui n'a que quelques sous en poche, comment va-t-il faire ? Ben lui, il va rester à la devanture de cet établissement et il va acheter le petit paquet de pommes de terre frites qui est beaucoup moins cher et il va le manger dans les allées. Mais il va manger les mêmes frites. Il n'y a pas une frite de riche, de pauvre. C'est exactement la même frite.
Pour terminer, Pierre Leclerc, un mot d'un point technique de la cuisson de la frite. J'aimerais revenir là-dessus parce que j'ai un ami qui s'appelle Olivier Pouls, qui est belge et qui, une fois, j'ai tenté de faire des frites pour lui avec une friteuse. J'ai eu le malheur de ne faire qu'une seule cuisson. Il m'a insulté. Aïe. Il m'a dit, les frites, c'est la double cuisson. Et donc, expliquez-nous ce concept de la double cuisson.
Dans les écrits, c'est dans les années 1890 que ça apparaît en Belgique. Là, on est quasiment sûr à 100% que c'est une création belge. Ça apparaît dans les livres de cuisine dans les années 1890, mais on peut penser que c'est plus ancien et probablement que c'est apparu chez les professionnels. Pourquoi ? Il y a une hypothèse qui, moi, me séduit beaucoup, qui me paraît intéressante. Imaginez que vous êtes dans une friterie, le client arrive, il commande sa portion de frites, vous les mettez dans la graisse et vous attendez 10-12 minutes, et après 10-12 minutes, elles sont cuites, vous les servez. Maintenant, imaginez que vous faites autrement. Vous faites une pré-cuisson de vos frites pendant 7-8 minutes, vous les laissez sur le côté, le client arrive, il commande ses frites, vous replongez vos frites pré-cuites, et là, vous les cuisez 3 minutes, et elles ressortent non seulement beaucoup plus rapidement, mais en plus, bien soufflées et encore plus croustillantes. Et donc là, vous avez absolument tous les avantages, ce qui me fait penser, moi, que probablement cette double cuisson est une création professionnelle. Et n'oublions pas que la frite est avant tout un produit commercial et qu'elle a mis beaucoup de temps à entrer dans les foyers.
Merci Pierre Leclerc pour cet éclairage qui nous donnerait presque envie de troquer notre goûter pour un cornet de frites.
Oh oui.
Double cuisson, hein, pour préciser.
Oui, s'il vous plaît.
Pour tout savoir sur la frite, je renvoie nos auditeurs à vos articles publié évidemment sur le site de l'Université de Liège. Merci beaucoup Pierre Leclerc.
Avec grand plaisir.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui avaient une sacrée patate. Après Antoine Parmentier et Monsieur Fritz, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un célèbre trio comique qui doit sa place dans notre émission du jour à l'une de leurs plus célèbres répliques.
Oui, Stéphane, il a des mots comme ça qui restent gravés à jamais dans les mémoires de toute une génération. « Vous n'avez pas le monopole du cœur », VGE à Mitterrand durant l'entre-deux-tours de la présidentielle de 81. « Désolé, mais non, je préfère qu'on reste copains, toi et moi », Constance à David Castello-Lopez durant la boum de Julien Pelletier en mai 93. Et puis, dans un registre tout aussi nostalgique mais plus rieur, cette réplique de film.
« Votre Colin, avec ou sans patate ?»«
Sans patate !»
Didier Bourdon, bourré à sa future ex-belle-mère coincée du cul dans la comédie culte Les Trois Frères en 1995. Alors, pour tous les fans des Inconnus, dont je fais partie, vous l'aurez compris, il est littéralement impossible de prononcer ou d'entendre le mot patate sans penser à cette scène des Trois Frères. De même que dès que j'ai eu un chien, je me suis évidemment empressé de l'appeler Choupette pour pouvoir dire devant mes invités
« Il est où le cucu, elle est où la tétette ?»«
Il est où le cucu, elle est où la tétette ?» C'est générationnel, c'est comme les bronzés pour Stéphane qui ne peut pas entendre le mot télésiège sans partir au quart de tour.
« Étoile des neiges !»
Et oui, les Inconnus, Stéphane, c'est le splendide des années 90. Et pour prendre la mesure de ce qu'il représente encore aujourd'hui, sachez qu'il reste de loin les humoristes les plus téléchargés sur le web, humoristes français, loin, bien loin devant Gad Elmaleh ou Florence Foresti, nous révèle le patron de MyScreen.fr, que je ne suis pas allé jusqu'à interviewer, mais j'ai trouvé ça. Les Inconnus voient le jour en 1984 dans le petit théâtre de Bouvard. Ils ne s'appellent d'ailleurs pas encore les Inconnus, mais les 5. Là, tout de suite, ça fait tilt dans vos esprits perspicaces. 5, mais ils sont 3. Comment se fait-ce ? Eh bien, tout simplement, parce qu'à la base, ils n'étaient pas 3, mais bien...
5.
Oh, bravo ! En plus de Pascal Légitimus, Didier Bourdon et Bernard Campan, il y avait aussi au départ Smaïn et Seymour Bruxelles. Ce dernier décidera de changer de vie et de devenir ostéopathe pile au moment où le groupe commençait à avoir du succès.
C'est assez bête.
Oui, surtout par rapport à l'argent, quoi. Quant à Smaïn, il s'est dit rapidement qu'il connaîtrait plus facilement le succès en solo, pari gagnant sur le court terme, moins sur le long, hein, puisqu'aujourd'hui, on peut le dire, Smaïn a un peu disparu, et même comme le dit assez méchamment Stéphane...
Les gens ne disparaissent pas pour rien.
Bah, il doit quand même nourrir quelques regrets vis-à-vis de ses anciens complices. Parmi ces inconnus, qui à l'époque le sont encore relativement, il y a donc un futur ostéo qui s'ignore, et un comédien qui n'a pas envie, mais alors pas du tout envie de devenir humoriste, c'est Bernard Campan. Bernard, il a d'autres ambitions que de faire rire les Français, il veut les faire rêver. Son idole, c'est Gérard Philippe, il veut être Gérard Philippe. Hélas, au cours Florent, François Florent en personne lui dit « Écoute Bernard, tu n'as pas un physique évident, tu es entre le jeune premier et le valet ». Il avait raison, l'humour à un moment a choisi pour moi, reconnaîtra Campan des années plus tard. Plus étonnant encore, Bernard a failli ne jamais apparaître sur scène avec Didier Bourdon et Pascal Légitimus dans le petit théâtre de Bouvard, car il vivait très mal le principe de la compétition humoristique. « Je redoutais terriblement ces moments-là, dit-il, parce qu'on passait toujours les uns après les autres et j'avais l'impression que celui qui passait avant faisait un tabac, je passais, ça faisait un bide, et le suivant faisait un tabac. Je ne voulais pas jouer et je disais à Didier « Non, moi je vais écrire, je vais vous écrire des sketchs, mais je vais pas jouer. J'ai toujours eu besoin que quelqu'un me prenne la main. » Alors, comment ça s'est passé ? Légitimus l'a gentiment pris par la main, Bourdon lui a mis un coup de pied au cul. En tout cas, Bernard a fini par monter sur scène et assumer son côté comique. Le succès est immédiat. En 87, les Inconnus débutent sur scène devant 46 spectateurs. Un an après seulement, ils font sale comble grâce aux bouche à oreille. La même année, ils animent une émission sur Europe 1. Émission baptisée Les Inconnus de l'après-midi, qui faisait exactement la même audience que nous, Stéphane.
Non, c'est vrai ?
Non. En 89, leur spectacle Au secours, tout va mieux se joue également à guichet fermé. Des extraits de leurs sketchs sont diffusés tous les soirs après le journal de 20h sur la 5. Mais c'est en 90 que tout explose avec la télé des Inconnus sur Antenne 2, programme dans lequel ils parodient gaiement les émissions télé du moment. Fort Boyard devient Fort Boyau, Perdu de vue devient Perdu de recherche et Tournée Manège devient Tournée Ménage. Une émission où les célibataires tournent beaucoup moins autour du pot.
Ingrid, est-ce que tu te baises ?
Oh là ! Non ! Jean-Pierre, lisez la question comme sur l'affiche, comme on l'a fait tout à l'heure.
Leur émission faisant des audiences absolument indécentes, même pour vous, Stéphane, les Inconnus décident alors de s'essayer au cinéma. 95, coup d'essai, coup de maître avec les Trois Frères, 7 millions d'entrées et un César de la meilleure première œuvre. Pourtant, on a bien failli passer à côté de la fameuse réplique des 100 patates, prononcée lors du dîner chez les Rougemont, les beaux-parents de Didier. C'est Bernard Campan qui raconte cette anecdote. Au départ, c'était une famille de gens riches, d'un haut niveau social. On avait trouvé le gag, votre Colin avec ou sans patates, sauf qu'on s'est dit que Madame Rougemont ne pourrait pas dire patate, elle dirait pomme de terre. Mais le gag était tellement magnifique, on a choisi d'oublier la famille Huppé et d'en faire des gens beaucoup plus modestes, des gens qui diraient...
Avec ou sans patate ?
Autre fun fact sur les Trois Frères, savez-vous qui a failli incarner le petit garçon ?
Stéphane Bern ?
Hein ?
Ah non, il était déjà trop vieux à l'époque.
Oh non, oui. Oh non, il avait 13 ans. Eh bien, le petit garçon qui a failli être retenu au casting, c'est...
Jordi
lui-même.
Dur d'être un bébé.
Une idée brillante de Claude Berry qu'heureusement les Inconnus n'avaient pas suivi. Alors forcément, après le succès des Trois Frères qui constituent l'apogée des Inconnus, le trio va imploser à cause d'un sombre micmac avec leur ex-manager qui détient toujours les droits du nom Les Inconnus et leur interdit donc par contrat de se produire ensemble. Didier et Bernard feront donc deux films sans Pascal, Le Paris et l'extraterrestre. Avant de se retrouver pour Les Rois Mages, qui fait partie de ces films que je ne me vanterai pas d'avoir adoré dans un dîner chic, en fait je n'irai même en bloc l'avoir vu, mais que j'ai au fond de moi vraiment adoré. Mais j'ai beau adorer Les Inconnus, je ne peux pas totalement passer sous silence deux points noirs. D'abord Les Trois Frères Le Retour en 2014, film que nous qualifierons pudiquement de suite très attendue, un peu moins pire que Les Bronzés 3. L'autre bémol, c'est cette guéguerre entre les inconnus et les nuls, guéguerre qui n'existe plus aujourd'hui que dans la tête de Didier Bourdon. Didier qu'il ne faut jamais lancer sur le sujet, sinon c'est parti, je cite « Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas photo entre les nuls et les inconnus. Nous, on a fait de la télé, du théâtre, du cinéma, on a eu des victoires de la musique, un Molière, un César. Nous, nous écrivions nos sketchs. Ceux des nuls, c'était beaucoup l'œuvre de Jean-Marie Bigard, hein, Tony Glandil. C'est Bigard. Les sketchs des inconnus, tout le monde s'en souvient. Ce n'est pas de notre faute si on est plus populaire qu'aujourd'hui. Bon, alors populaire, c'est sûr qu'ils le sont, plus que les nuls, je ne sais pas. Et la question demeure, reverra-t-on un jour les inconnus ensemble sur scène ? En 2019, Pascal Légitimus disait « Le plaisir de se marrer ensemble me manque, Didier et moi en avons très envie, Bernard moins ». Alors on confirme Bernard moins, hein, voire beaucoup moins, voire pas du tout, les gars, la position de Bernard étant, je cite « Ce n'est pas tant le demi-succès ou l'échec des Trois Frères Le Retour qui est en cause, plutôt l'investissement que ça demande, je ne me sens pas du tout de repartir ». Tant pis pour nous, tant pis pour les jeunes qui devront se contenter de McFly et Carlito. En tout cas, vous nous aurez donné bien du bonheur et vos répliques resteront toujours gravées dans nos cœurs. Avec David, souvent en antenne, on se rejoue le sketch des chasseurs. Alors, nous, on se régale, même si on a parfaitement conscience que c'est très gênant pour les gens autour de nous. Un peu comme Stéphane, qui lui est donc la génération splendide, je le disais, lorsque durant la coupure pub, il chantonne tout seul dans son coin. C'est gênant pour les autres, mais je comprends que ça vous enthousiasme vous-même.
Mais vous-même, vous faites des choses.
C'est vrai.
Mais vous découpez des sons, pas moi. Mais
c'est mon petit plaisir.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour qui avaient la patate et qui nous l'ont transmise. Merci à eux.
Oui, Stéphane, on est en pleine forme cet après-midi. C'est indécent et ça tombe bien parce que traditionnellement, la dernière demi-heure d'historiquement vôtre est un feu d'artifice. C'est le moment de remonter aux origines de tout ce qui fait notre quotidien avec le chroniqueur qui, eux aussi, ont la patate, notamment Olivier Pouls, qui l'a doublement aujourd'hui, puisque vous nous parlez.
Eh bien, je vais vous parler des pommes dauphines, puisque la frite s'est déjà fait. Puis mon compatriote spécialiste de la frite, remarquable.
Le mot de la fin, c'est Stéphane qui l'aura avec une expression qui tourne autour de la patate. Pas du tout, pas du tout, vous n'en avez pas trouvé, Stéphane, mais vous avez une autre expression qui est très sympa.
Oui, une expression pour dire qu'un cheval revient de loin et qu'il gagne. On dit qu'il revient du diable Vauvert.
Mais c'est où
le diable?
On vous le
dira. C'est pas un lieu dit non, quelque part sur la carte.
On peut pas le trouver avec Waze. Non. David Castello-Lopez est impatient de nous livrer sa chronique du jour puisque lui, il est pile dans notre thématique. Ils ont la patate. Vous nous parlez, David, d'un jouet qu'on a tous reçu en cadeau pour notre anniversaire, Monsieur Patate.
Tout à fait. Alors moi, je pense pas que j'ai été de ceux-là.
Ah bon ?
Non. Avant d'écrire cette chronique, j'avais pas de rapport particulier avec Monsieur Patate, ni avec Madame Patate, sa femme. C'était un jouet qui m'avait un peu échappé, si vous voulez. Et donc, comme j'aime pas parler de ce que je connais pas, j'ai acheté un Monsieur Patate et une Madame Patate. Et je vous ai amené ici, d'abord, la version féminine, hein, Madame Patate, qui est ici, vous voyez. C'est quoi, d'abord, hein, Monsieur Patate, Madame Patate? C'est une pomme de terre en plastique, hein, qu'on voit en dessous, là, avec des trous, un petit peu partout dessus, dans lesquels on peut venir ficher des éléments de visage et de corps. Les yeux, la bouche, le nez, les bras, etc. Bon, comme ça, ça a l'air moyennement fun quand même, hein. Mais le fun augmente un petit peu lorsqu'on commence à disposer les éléments du visage de façon créative. Par exemple, en mettant un bras à la place du nez et la langue à la place des yeux. J'ai ici Monsieur Patate sur lequel j'ai fait cette expérience. Vous voyez que Monsieur Patate devient un peu une sorte de Strum de l'espace.
Vous avez défiguré Monsieur Patate.
Voilà, là. Voilà. Il fait très peur. Et donc, le fun, si vous voulez, augmente un petit peu. Puisque la liberté produit le fun. Mais je vous préviens, ce niveau de fun n'ira pas plus haut que ça.
Hein, voilà.
C'est comme ça, on est au maximum.
C'est pour des enfants de quel âge?
Petit, j'imagine, je ne sais pas, mais je pense avant 10 ans.
On y a joué pendant 20 minutes.
Pourtant, donc voilà, c'est pas top, quoi, mais pourtant, Monsieur Patate, c'est un des yeux les plus célèbres et les plus vendus du monde. Il a même eu droit à son personnage dans Toy Story, tout ça. Et ça amène chez moi immédiatement une question. Depuis quand est-ce qu'il existe Monsieur Patate? Eh bien, Monsieur Patate, il a été inventé en 1949 par un monsieur qui s'appelait Georges Lerner à Brooklyn. Mais à l'époque, c'était un jouet un petit peu différent. Il n'y avait pas de patate en plastique. Il y avait juste les éléments du visage. Et les enfants étaient invités à les planter dans des vrais légumes pour en faire des personnages. À l'époque, donc, Monsieur Patate était un vrai Monsieur Patate avec une vraie patate. Et sincèrement, c'était un petit peu mieux parce que
sympa, ouais.
Le niveau de liberté créative était plus grand. J'ai amené ici une patate, vous voyez ?
j'ai amené ici une
patate.
Vous
allez constituer un monsieur patate.
Voilà, vous avez une patate ici. Si vous mettez des yeux à cette patate comme ça.
Ça marche.
Hop.
Oui,
ça marche.
Avouez que le fun est bien supérieur.
Ah bah oui.
Vous voyez ?
Avec une vraie patate. Vous savez, vous amusez.
Voilà, on est carrément monté d'un cran en matière de fun. D'autant plus que ces éléments, vous pouvez les mettre sur d'autres légumes. C'était marqué sur la boîte d'ailleurs quand le jeu est sorti. Any fruit and vegetable makes a funny face man. N'importe quel fruit ou légume peut se transformer en homme avec un visage rigolo.
Et surtout, je trouve que quand la pomme de terre commence à germer, vous voyez.
Oui, tout à fait.
Et bien, ça fait des éléments.
Ça fait des éléments très sympas. Oui.
Mais moi, quand j'étais jeune, je connaissais tellement rien aux fruits et légumes, j'avais vécu sans ma mère. Et un jour, j'avais laissé des pommes de terre dans le frigo. Elles ont germé, évidemment. J'ai cru que c'était une maladie, genre une attaque biologique.
Oh.
Et donc j'avais pris des gants en latex rose pour les prendre et les sortir. Je me suis mis un masque et je les ai sortis dans la poubelle en pensant que c'était une maladie terrible. Je les avais pris en photo. Ma mère m'a dit mais t'es vraiment con.
Je comprends comment vous avez réagi quand la Covid est arrivée.
Voilà. La Covid, les patates. Oui, j'ai eu le temps d'améliorer un petit peu Monsieur Patate sur la pomme de terre. Alors le jeu, il a immédiatement eu beaucoup de succès, en partie parce que c'est le premier jouet aux États-Unis à avoir fait l'objet d'une publicité destinée spécifiquement aux enfants. Vous savez, ces publicités qui font que ensuite les enfants disent à leur papa qui rentre encore une fois du bureau beaucoup trop tard, papa, s'il te plaît, offre-moi un Monsieur Patate comme dans la publicité pour compenser l'amour que tu ne me donnes pas. Voilà. Et papa, là, il achète évidemment direct. Il y a eu Madame Patate, ensuite Cousin Patate. Patate, tout patate, mais petit à petit, il y a eu de plus en plus de plaintes de parents qui ont dit, un peu comme vous, il y a des patates qui pourrissent dans mon appart, avec des trucs en plastique dedans, c'est chiant, c'est relou. Et donc, à partir de 1964, Hasbro, qui est la société qui commercialisait et qui commercialise toujours Monsieur Patate, a fourni un corps en plastique standardisé à Monsieur Patate, qu'on voit ici. Mais Monsieur Patate, c'est quand même un jouet qui reste intéressant parce que c'est un jouet engagé.
Ah bon ?
Plusieurs fois depuis les années 80, Monsieur Patate a été utilisé pour faire avancer un certain nombre de causes. Par exemple, avant Monsieur Patate, il fumait la pipe. Mais en 1986, il a officiellement rendu sa pipe à l'administrateur de la santé des États-Unis dans une cérémonie publique, vous voyez, pour dire en gros, c'est pas bien de fumer. Ce qui était aussi, bien sûr, une façon pour Hasbro de faire sa propre pub, et en particulier la pub de Monsieur Patate. En 2002, Monsieur Patate s'est devenu un membre officiel de l'Association américaine des personnes retraitées.
Oui,
il avait
une
cinquantaine d'années. Et plus récemment, il y a eu un petit scandale parce que la mention Monsieur et Madame Patate a été retirée du logo de Monsieur Patate. Avant, c'était Mister and Mrs. Potato Head, et maintenant c'est juste Potato Head, et l'une des raisons pour laquelle Hasbro a fait ça, c'est pour ne pas assigner de genre prédéfini à Monsieur et Madame Patate, pour que les enfants se disent j'ai un être vivant patate, cet être est peut-être un homme, une femme, mais peut-être aussi que c'est une patate gender fluide.
Voilà.
Vous voyez ? Et même si on pourra, il faut quand même le dire, on pourra encore acheter des kits Monsieur Patate et des kits Madame Patate, ça existera encore comme ça. Mais Hasbro a dit en plus qu'ils allaient bientôt commercialiser des kits familiaux où les enfants pourront créer des couples homosexuels de deux mamans patates ou de deux papas patates. Et ça c'est pas mal, j'avoue, parce que comme je vous dis, c'est une liberté créative en plus pour les enfants. Or la liberté, on l'a vu, je l'ai démontré, c'est le fun.
Mais je trouve que c'est plus drôle sur une vraie patate.
C'est vrai, bien sûr.
Ça rend
mais
bien sûr.
Regardez à quel point c'est mieux, c'est vrai. Et en plus, chaque patate a sa personnalité.
Bien sûr.
Donc il se retrouve dans le visage.
Et la vraie diversité, c'est de rajouter une courgette, de rajouter une tomate. C'est ça la diversité.
Et on
bien
fait
sûr.
Un conciliabule de légumes et on s'amuse. Voilà.
Un conciliabule de légumes. On a entendu vraiment des phrases folles aujourd'hui dans Historiquement Votre. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio
et en vidéo aussi.
Et en vidéo vidéo sur YouTube, évidemment.
Ouais,
sur YouTube. Sur Instagram
YouTube.
Aussi, je vous l'annonce que la vidéo, je vais la mettre dans pas longtemps aussi. Olivier Pouls est avec nous pour nous parler gastronomie, histoire de la gastronomie. Aujourd'hui, notre sujet, je le rappelle, c'était ces personnages de l'histoire qui ont la patate.
Et je peux vous dire que moi, il n'y a rien qui m'inspire plus en cuisine que la patate.
Ah
je
ne
sais pas si vous... J'adore ça, je peux les manger, mais de toutes les façons. Alors, regardez ce qu'on avait déjà fait depuis le début de la saison. On avait fait le gratin dauphinois, on a fait les frites. Bon, j'aurais pu faire la purée revisitée par Joël Robuchon qui l'a repopularisée.
C'est pas compliqué, c'est moitié beurre.
Vous n'avez pas fait encore une salade de pommes de terre allemande.
Non.
Vous savez, avec des oignons et des petits morceaux de cornichons.
Vous voyez, les pommes de terre, on peut les faire de toutes les manières. Ouais. Alors, il manquait la pomme dauphine. Et moi, la pomme dauphine, c'est un des grands classiques de la pomme de terre que j'adore. Vous savez ce que c'est ou vous n'avez pas d'idée?
Pour moi, c'est de la purée qu'on met au four.
Alors, non, c'est pas tout à fait ça, c'est un petit peu plus complexe.
C'est des boules
dans les
des
petites, c'est un mélange.
Des pommes de...
Alors, je vais vous donner la recette dans un instant.
Voilà, très bien. Moi, je ne pose pas la question. Je vais chez Picard.
Il
ne
faut pas confondre pommes dauphines et pommes noisettes, par exemple. Les pommes noisettes sont beaucoup plus petites. Et normalement, la vraie pomme noisette, c'est une pomme qui a été tournée, une pomme de terre qui a été tournée toute petite et qui a la taille d'une noisette. Industriellement, c'est composé uniquement de purée recouverte de chapelure. Mais ce n'est pas le cas de la pomme dauphine. Je vais y venir dans un petit instant. Alors, la première mention des pommes dauphines, elle remonte à 1830, dans un livre qui s'appelle Le Cuisinier Durand. C'est un livre qui a été publié dans le sud de la France. Mais à l'époque, il s'agit de pommes fruits et non pas de pommes de terre. Et le terme pomme dauphine fait référence, mon cher Mathieu, à l'épouse de l'héritier du trône de France, le dauphin, et non pas à la voiture ou à la place dauphine. C'est une recette qui est... dit-on, en fait... Le dauphin avait l'habitude d'arriver en retard à table. Et donc, il fallait trouver des recettes. Le premier, probablement. À moins que ce ne soit une tradition des dauphins.
Imagine les historiens qui écoutent par hasard l'émission et qui entendent cette précision factuelle.
Tous les rois de France ont eu un dauphin.
Oui.
Donc lequel?
Quel Louis?
Le premier.
Le premier, disons, ça remonte.
Ah, bah oui, ça remonte au XIVe siècle, le premier dauphin.
Mais là, en l'occurrence, ça a été créé pour. On est à quelle époque? Pour le fils de Charles X, alors.
La recette, on est en 1864 pour la première recette.
Dauphin depuis longtemps.
Ouais, là.
Allez, pour la première recette, on parle d'ailleurs de pommes à la dauphine. Et alors, c'est un mélange de pâte à choux et de purée de pommes de terre. Et c'est ça l'astuce, c'est qu'on mélange une quantité à peu près égale de pâte à choux. Alors, pour réaliser une pâte à choux, c'est de la farine, du beurre, des œufs, un petit peu d'eau, sel, poivre, pâte à choux classique, qu'on mélange à 500 grammes de chair de pommes de terre qui a été cuite et écrasée. On en fait des petites boulettes et on les frit. Et ça, c'est la recette de la pomme dauphine. Certains les font au four, je trouve ça moins bon, c'est moins croustillant. C'est comme la frite, ça a besoin d'être croustillant. Et donc voilà, la vraie pomme dauphine, c'est ce mélange pâte à choux, purée de pomme de terre.
Et vous les trempez dans une huile.
Dans une huile à 180 degrés. Mais c'est une cuisson, alors que la frite, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est bien deux cuissons. La pomme dauphine, c'est une cuisson qui dure à peu près 3-4 minutes.
Parfait.
Parfait. Et voilà. Maintenant, j'imagine.
Alors maintenant, il faut que je retrouve le dauphin, le nom du dauphin.
Oui, quel dauphin on a appelé la pomme dauphine. Mais d'ici la fin de l'émission, ça serait pas mal.
Oui, vous serez gentil d'enquêter rapidement.
En tout cas, si j'y arrive, je reviendrai du diable Vauvert. Hein, ça
comme il a fait une belle transition, on va parler effectivement de cette expression revenir du diable Vauvert avec vous, Stéphane.
Oui, parmi les expressions un peu désuètes pour lesquelles j'ai, je l'avoue, une certaine tendresse, on peut citer du diable Vauvert. Quand on vient ou quand on revient du diable Vauvert, c'est qu'on revient de loin. Mais on ne sait pas d'où revient cette expression.
J'imagine de Vauvert, non? Il n'y a pas un lieu qui s'appellerait Vauvert. Après, ça n'explique pas pourquoi le diable serait là, mais on a le droit de se poser la question. D'ailleurs, je vous la pose.
Oui, j'aime bien quand vous jouez détective, on dirait un épisode de Derrick. En fait, au XVe siècle, quand on s'agitait plus que de raison, on disait « faire le diable de Vauvert ». C'est vrai qu'on dit encore aujourd'hui « s'agiter comme un beau diable ». Mais alors, d'où sort ce Vauvert? On se souvient des expressions « tout part à volo ». Et par Mons et par Vaux. Cela vient du Val, qui est un dérivé du Vallon ou de la Vallée. Est-ce qu'au pluriel, les Vaux pourraient être verts? Voilà qui semble tiré par les cheveux.
Un peu.
En 1257, Saint-Louis a l'ambition d'établir un monastère à Paris. Il choisit alors l'hôtel Vauvert, un manoir en ruine situé pour les Parisiens à l'actuel carrefour de Denfert-Rochereau. Denfert, diable, coïncidence? Totalement. En fait, le monastère,
beaucoup de fausses pistes, hein, Sherlock,
le monastère avait la réputation d'être le théâtre d'événements surnaturels, voire diaboliques. Il est plus probable que ces rumeurs viennent des moines eux-mêmes qui avaient tout orchestré pour qu'on leur fiche la paix. Tout ceci a donné l'expression au diable Vauvert pour dire très loin. Et c'est vrai qu'on n'avait pas besoin de Vauvert, car quand on dit « va au diable », ça veut dire « va très loin ». Parmi les expressions actuelles qui veulent dire la même chose, notez qu'en Argentine, on dit « Donde el diablo perdió el poncho ». Comprenez, jusque là où le diable a perdu son poncho. Là où il est, je suis certain qu'il n'a pas froid, il peut donc s'en passer, parce que s'il brûle dans l'enfer, il fait chaud, il n'a pas besoin de son poncho.
Historiquement vôtre, c'est fini. Et j'espère que cette émission vous aura donné la patate.
Hey, lâche pas la patate.
Puisqu'on évoquait aujourd'hui ces personnalités qui, des inconnus à Monsieur Fritz en passant par Antoine Augustin Parmentier, avaient justement une sacrée patate. Un jeu de mots excellent trouvé par Stéphane en conférence de rédaction et dont il ne se lasse pas.
Je me ris dessus.
Alors, Stéphane, lequel de nos personnages vous a le plus donné la frite, au final?
Écoutez, j'adore les inconnus comme vous, évidemment, je les connais un petit peu.
Oui, vous aussi,
mais Monsieur Fritz m'a bien interrogé.
L'idée d'associer la frite avec le cognac, personnellement, j'ai pensé, c'est une bonne idée. Autour de quel jeu de mots truculents avez-vous conçu l'émission de demain, Stéphane?
Demain, on réunit des personnages qui ont déchiffré de drôles de lettres. Jean-François Champollion, premier à avoir déchiffré les hiéroglyphes égyptiens. Le mathématicien François Viette, qui a décodé des lettres cryptées pour le roi Henri IV que ses ennemis lui envoyaient.
Et celui qui déchiffre des chiffres et des lettres, et les anime surtout, le Benjamin Button du PAF, Laurent Romeshko. Vous avez hâte d'entendre son portrait, mais pas autant que moi de l'écrire. À demain, Stéphane.
À demain, oui. Je crois que le compte est bon pour aujourd'hui.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.